France Culture.
La machine à bactéries, ce moteur-là, ne risquera jamais de s'épuiser. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alphonse Allais. Alors que la grippe dévaste les villes et assaille les campagnes, l'équipe de Mauvais Genre retranchée dans le studio 341 de Radio France est dotée des Flitox Marjorin, les meilleurs du monde, vaille que vaille, persiste à émettre pour vous recommander de quoi fêter Noël en très grande pompe, les moins funèbres possibles. De Claude Chabrol et Paul Schrader à Nathalie Clifford-Barnet et Tadashi Sawashima, Roman Polanski et Bazooka, l'orgue à cadeau joue à plein soufflet, musique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. C'est pas tout à fait Noël, mais c'est déjà le moment d'y penser et de fourrer les chaussons avec tout ce qu'il y a de moins recommandable en termes de DVD, Blu-ray, 4K, 8K, 12K, tout ce que vous voulez. Nous sommes là pour vous faire les pires recommandations du monde, dont acte dans l'émission qui s'ouvre maintenant. Bonsoir Esther Teilhard.
Bonsoir François.
Alors après Rachild, après Colette, après ben voilà Nathalie Clifford-Barnet, bien sûr.
Nathalie Clifford-Barnet, l'Amazone, la déesse absolue, qui nous fait oublier cette abomination des marchés de Noël et cette ambiance de Noël horrifique qui nous désespère.
Voilà, la meilleure ennemie du Père Noël, Nathalie Clifford-Barnet, donc un très beau livre paru magnifique. Chez Bartilla. Nous en parlerons. Fais les prouillés. Comment va-t-il?
Magnifiquement. Là, j'arrive avec un coffret Chabrol.
On va d'ailleurs expliquer à quel point un coffret Chabrol, on dit ça,
c'est une révolution, c'est pas rien. Et puis il y a quand même une mention au chat qui fume sur les deux de Palma, là, Pulsion et Blowout. Là, il y a du 4K.
Absolument. Fausto Fazulo.
Vous reprendrez bien une petite part de 4K,
c'est ça?
Ça va très bien, François, merci. Et vous?
Ça va, absolument. On fait face, on avance, on progresse. Et vous nous parlerez, vous, alors c'est pas des DVD, ni des Blu-ray, ni des 4K, ni tout ce qu'on veut. C'est un livre et un mince volume, mais intense.
Une espèce d'opuscule un peu étrange peut être un excellent cadeau surprise à mettre sous le sapin, je pense.
D'accord, et le livre sur Hardcore de...
Et le livre de photos consacré au film Hardcore de Paul Schrader.
Impeccable. Stéphane Duménildo, bonsoir.
Oui, bonsoir François.
Alors avec vous, cap...
Cap sur le Japon, avec encore une perle du grand cinéma populaire japonais édité par Roboto, donc le Théâtre de la Vie de Tadashi Sawashima.
Oui, Roboto, très bon label dont on chante régulièrement la gloire, mais avec raison, parce que très belles éditions et puis des films qu'effectivement qu'on ne trouve pas partout, qu'on ne trouvait nulle part, il faut dire, avant qu'ils interviennent. Bonsoir donc à toutes et à tous, et on commence bien sûr à quelques jours de Noël par le bon, le joyeux Noël Mauvais Genre de Laurent Polleray.
C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo. C'est un Mogwai.
Salut Gizmo.
Les Mogwai sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas.
Mais on va nous prendre en photo.
Aveuglés. Mais mouillés. Et... si dans la nuit...
Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant.
Ils sont nourris.
Allô? Allô? Yes.
Pour toi, c'est rien de plus que te faire arracher une dent.
On peut vous déposer quelque part?
Non, c'est gentil, merci.
Vous avez des problèmes?
Ah non, aucun, seulement... j'ai pas eu beaucoup de chance ce soir.
Jim! Non!
Tu as osé me frapper? Où tu es passé, petit salaud?
Joyeux Noël, fête!
Voilà, il suffisait de demander à Laurent Polleret de nous confectionner un petit Noël perso. On est au rendez-vous. Vous avez reconnu les films dont il est question, madame, messieurs ?
On a reconnu les Gremlins, surtout.
Alors, les Gremlins, très bien. Vous gagnez donc une boîte de chocolat.
Ah, il y en avait plusieurs. Alors, moi, j'étais
trois,
un peu...
Il y en a trois films. Alors, j'attends. Bah,
j'ai mal tendu l'oreille, je m'en excuse. Les Gremlins m'ont percuté en premier. Mais...
qui est l'oreille de Laurent Polleret. Je peux dire qu'il y avait Black Christmas.
Ah oui, oui, effectivement, avec cette histoire de téléphone
Bob
et de, d'appel anonyme.
De Bob Clark, ouais. Voilà. Ah, quand même, voilà, il y avait ça. Et puis, Douce Nuit, Sanglante Nuit.
Ouais, formidable.
Le premier d'une saga.
Ouais, voilà. Avec un Père Noël très méchant.
Eh ben, vous voyez que vous voulez, on se souvient. On se souvient de tout. Alors, on va entamer l'ouverture des paquets. Avec le beau paquet Chabrol, donc il s'agit d'un coffret chez Tamasa de films dont on n'avait pas pour l'heure.
Voilà, c'est-à-dire que c'est des films, certains.
Édition convaincante.
Voilà, certains, on en avait parlé à mauvais genre, mais dans des piètres éditions. C'est des films qui n'avaient pas été restaurés. C'est des films produits par André Genovès. André Genovès, c'est un type qui est arrivé à 17 ans à Paris avec l'envie de faire du cinéma. Il n'avait pas un sou, il a fait de l'immobilier. Et puis, de fil en aiguille, il s'est retrouvé avec Daniel Boulanger, qui était à l'époque le scénariste de Broca, qui lui a présenté Chabrol. Et voilà, il y avait le scénario des Routes de Corinthe. Chabrol a trouvé ça un peu léger, mais il s'est dit, bon, il était un peu fâché avec Beauregard, donc il savait pas quoi faire, donc il a fait ça. Et ça s'est très mal passé en cours de route, parce qu'il y avait plus d'argent. Mais Chabrol a dit, moi, je finis le film. On se débrouillera, je finis le film. Et Genovès a toujours été gré à Chabrol de ce geste sur leur premier film ensemble, et ça a été le début d'une collaboration. C'est-à-dire qu'après, ils se sont dit, le film a finalement été un succès, bien rentré dans ses frais, La Route de Corinthe, et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils ont sorti un scénario de Guégoff, qui était Les Biches. Et pendant 10 ans, ils vont faire 13 films ensemble. Et le coffret que sort Tamasa sort 7 de ces 13 films, qui sont les 7 meilleurs. Donc ça, c'est ce que Chabrol a appelé lui-même sa période pompidolienne, puisqu'elle correspond avec le président Pompidou, la présidence de Pompidou.
Surtout la France du président Pompidou.
Et la France de Pompidou. Voilà. On commence avec Les Biches en 68 et on termine avec Les Noces Rouges en 73. Et entre-temps, on loge Que la bête meure, Le Boucher, La femme infidèle, La rupture, juste avant la nuit. C'est au pire des très bons films, au mieux des chefs-d'œuvre. Hein, et donc on a ces copies formidables qu'on avait vues au cinéma cet été, hein, ça avait été lancé au Festival de La Rochelle et puis après ça avait circulé un peu partout dans toute la France, et la restauration est très propre par rapport à des tas d'éditeurs qui vous proposent des coffrets de cinéastes qui ne sont que de l'emboîtage. Là, il n'y a pas un seul DVD qui est repris d'ailleurs. Vous avez 8 DVD ou 8 Blu-ray, vous choisissez votre crèmerie en fonction de votre installation. Évidemment, on pousse au Blu-ray par ici, mais si vous n'êtes pas équipé, Tamasa a pensé à vous, et vous avez exactement la même chose, avec moins de pixels, mais quand même c'est très bien, parce que c'est la même restauration, en DVD. Et donc vous avez 7 films, 7 DVD, et un de bonus, avec des films autour de Chabrol, le film de sa fille, Cécile Maître Chabrol, mais aussi... une captation de La Table Ronde à La Rochelle, le cinéaste de notre temps qui est absolument dément, avec Jean Doucher, ils sont tous les deux dans le salon, ils sont face à la télé et ils passent en accéléré les VHS des films de Chabrol en les commentant autour d'un cognac. C'est assez savoureux. Il y a un numéro de cette émission de télé du début des 70 qui s'appelait Visite à domicile, où on a été voir
c'était très giscardien,
c'était Chabrol qui vivait à l'époque avec Stéphane Audran, donc on est chez eux, machin, voilà. Et puis il y a des archives. Il y a par exemple un entretien avec Michel Bouquet qui est saucissonné, parce que dans ce lot-là, on a quand même 3 films. On a 6 films avec Stéphane Audran et 3 avec Michel Bouquet. Et Michel Bouquet au cinéma, c'était un grand acteur de théâtre, mais les producteurs n'y croyaient pas. Et Claude Chabrol a dit, moi, La femme infidèle, je veux que ce soit Michel Bouquet qui joue le mari. Ça va être extraordinaire. Ça va être beaucoup mieux qu'avec un acteur ordinaire. Et Genovès, qui passait tout à Chabrol, lui a dit, sans doute ça va pas être bien, mais enfin ça va pas être commercial, mais faisons comme ça si tu le souhaites. Et La femme infidèle a été le succès qu'on connaît. Dans cette édition, l'habileté a été de demander à des cinéastes de témoigner sur les films. Alors, C'est un peu la fortune du pauvre, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas travaillé. Il y a des gens qui sont...
Non,
mais il y a des gens qui se retrouvent en faisant du perso. Ce que Bong Joon-ho, parce que, s'il vous plaît, quoi, Bong Joon-ho, quand même. Alors, ce qu'il va vous raconter de que la bête meurt est pas inoubliable. Mais par contre, c'est quand même sympa de voir comment il dit qu'il a trouvé aussi des clubs de sa fac et que ça lui a donné, après, l'envie de parasite. Hein. Je veux dire, Lucas Bellevaux, il s'écarte de la rupture pour raconter son tournage de Poulet au vinaigre. Avec, c'est ça qui est intéressant. Et après, il y a Patricia Mazui, là, sous la pluie, avec son parapluie, mais qui est très Patricia Mazui. Elle est pur jus pour parler du boucher, ça va dans tous les sens, mais en attendant, elle parle très bien du sens de l'ellipse, de la couleur.
Ah ben justement, vous parliez du boucher, la scène des cerises à l'eau de vie, Pascal Audran, Jean-Yann.
Regardez ce que je vous apporte, j'espère que vous aimez ça.
Oui.
Des cerises à l'eau de vie. C'est pas de la gnognotte, ça, à côté des saletés qu'on vend dans les bistrots. Hein, regardez comme elles sont grosses. Vous aimez ça, non?
Oui, beaucoup.
Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Si, je suis un peu fatiguée. Vous pourrez les goûter tout de suite?
Eh ben, asseyez-vous, vous dérangez pas, je vais chercher des verres. Ah, vous êtes crevé. Forcément, avec toute cette histoire. Peu de jus.
Je crois que je n'en ai jamais mangé d'aussi belles.
Elles sont bonnes, hein? Hein? Et vous en pensez?
Formidable.
C'est marrant, depuis que je vous connais, c'est la première fois que je vois pas dans votre assiette. Ah, c'est marrant. Pas marrant.
Ah si, vous en faites pas, Paul. Vous êtes trop gentil.
Je suis pas complètement abruti, je sais bien que ça vous a fait un choc quand même. Mon pauvre gosse. Le pauvre monsieur Hamel, il doit être dans ses états.
On n'a pas pu faire la classe aujourd'hui.
Je sais. Du coup, ça vous a fait deux fois plus de travail. Vous devriez prendre du congé. Si vous tombez malade.
Mais non, je suis très solide.
Très bien.
Ce cinéma bourgeois et tout ça, et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus riche que ça. Parce que, effectivement, c'est cette femme mariée un peu ambiguë dans La femme infidèle, mais là, on vient de l'entendre dans le boucher avec Chabrol. Elle a un rapport très, très ambigu. Elle est institutrice et jusqu'à quel point elle se rend compte de qui il est, jusqu'à quel point elle va avoir peur, c'est assez incroyable. Dans la rupture, c'est une pauvre femme qui est exploitée par son beau-père, qui est joué cette fois-ci par un bouquet qui est plus son mari mais qui est un ignoble beau-père qui veut récupérer la garde de son fils et elle va tout faire pour pouvoir sauver son gamin, alors que dans Les Noces Rouges elle ne pense qu'elle est ivre de jouissance, de plaisir, elle pense qu'à faire l'amour avec Michel Piccoli au musée, partout, n'importe quoi, les amours adultères, au nez de Claude Pieplu qui dans cette séquence
fait célèbre, des affaires.
Voilà, fait des affaires et espère que vous aurez tout le plaisir que vous en espérez de cette liaison avec ma femme. Voilà, c'est, je veux dire, il y a ce côté très délicieux. Et surtout, quand on voit ces sept films à la suite, je veux dire, on explose la réputation de Chabrol fumiste. Ce sont des leçons de mise en scène. Ce sont des films à la fois très écrits, très bien filmés. Ces sept films sont, avec le même directeur de la photo qui est Jean Rabier, qui est quand même un des maîtres de la photo en France à la fin des années 60 et des années 70, et Pierre Janssen fait la musique. Après, ce sera plus tard, ce sera Mathieu Chabrol. qui fera la musique. Il y a une espèce de continuité comme ça qui est tout à fait intéressante. Et en tout cas, avec Genovese, Chabrol a eu la sécurité, comme il l'aura plus tard avec Carmitz, quand il fera la cérémonie et cette série-là. C'est-à-dire qu'en fait, il est salarié pendant 10 ans, il va être salarié à l'année. Donc c'est une sorte de moyenne pour les préparations, l'écriture, les tournages, et puis à la fin de l'année, s'il y a du rab, il a un petit bonus. Et moyennant quoi, il fait un ou deux films par an, en fait.
Comme un réalisateur de studio, en fait.
Comme un réalisateur de studio. Et pour Chabrol, c'est exactement ce qu'il faut, parce que le gars, ça ne l'intéresse pas de s'inquiéter de l'argent et tout ça. Il doit être concentré sur ses œuvres. Et maintenant que ses films sont restaurés, on voit leur extraordinaire plasticité. On avait fait dans Mauvais Genre que La Bête meurt. On a parlé du film, on a parlé de sa mise en scène, de la direction d'acteur. Aujourd'hui, je ne reconnaissais plus le film, c'est-à-dire que tout d'un coup, les bleus sont totalement différents. On s'aperçoit le travail sur l'image qui est absolument extraordinaire. Le rouge du sang qui vient dans le boucher sur la tartine de pain, c'est extraordinaire. Il y a un sens plastique du cinéma de Chabrol sur lequel on était peut-être passé à côté et que ce coffret permet de réhabiliter.
Merci Philippe. Complément de commentaire, Stéphane ?
Oui, alors en les revoyant aussi, moi ce qui m'avait aussi marqué, c'est la dimension fantastique de Chabrol. Si on voit Les Biches, c'est un film de vampire. Si on prend Le Boucher, c'est un film de loup-garou, strictement. Et La Rupture, là on est du côté de sorte de version LSD d'Alice au Pays des Merveilles, avec une femme qui va partir dans un univers complètement parallèle à la fin.
Fausto ?
Moi j'ai très envie de revoir Que la bête meurt. Je tiens vraiment comme étant l'un des meilleurs Chabrol. Je suis très curieux de voir ce qu'en dit quand même Bong Joon-ho. Et j'ai souvent pensé à une programmation complémentaire à Que la bête meurt si j'avais la possibilité, par exemple, d'organiser un cycle autour de la France de cette époque. Et je pense que c'est un film à voir entre Dupont-la-Joie de Yves Boisset et La Traque, justement, de Serge Leroy, pour avoir un paysage en fait de la France de cette époque particulièrement impitoyable.
Mais il y a quand même une question à se poser. On ne pourra pas y répondre totalement, mais c'est quand même une période de l'histoire de la France qui a été accompagnée comme jamais, peut-être avant-guerre, peut-être au moment du réalisme magique, de Carnet, tout ça, jamais par le cinéma. Enfin, je veux dire, la chronique de la France en temps réel, la France pompidolienne, post-gaulienne, avec son décollage vers les affaires, le dynamisme du businessman de province, et toujours un côté balzacien assez sordide, c'est rare qu'une époque historique soit à ce point tenu par le cinéma.
Et on peut documenter avec Sauté, en parallèle, qui raconte exactement la même chose et qui fait la jointure avec l'époque giscardienne. Mais c'est exactement ce que vous racontez, quand on voit Vincent François, et d'ailleurs, Genovès a produit Mado. Oui. Ça a été d'ailleurs la fin de ses affaires. Enfin, le film est magnifique, hein, mais ça a été un
échec. Plus tard, il fera Mestrine.
Trop noir. C'est... Parce qu'il y a c'est des films très noirs, histoire. Juste avant La Nuit, c'est pour vous, François. C'est comment on fait d'un polar un trouble métaphysique.
Mais je me souviens, c'est celui qui m'avait semblé vraiment le plus abyssal et le plus sombre. Bon, en tout cas, Chabrol, bien évidemment, encore et toujours, c'est un coffret. Chez Tamasa, on change un petit peu d'univers, quoique dans la chronique sociale, c'est assez échevelé quand même, avec Hardcore de Paul Schrader.
Kristen's disappeared. What happened? Kristen isn't the type of person to just up and leave.
I said, let's hope she's a runaway.
A father searches for his missing daughter. A movie which will take you into a world never dealt with in a major motion picture. George C. Scott.
Hardcore de Paul Schrader, donc on n'a pas encore l'édition Blu-ray 4K dont on rêverait, non, mais on a un livre
absolument
qu'il faut mentionner.
Absolument. Parler quand même un petit peu du film avant, histoire de ne pas désarçonner les gens, les auditeurs et auditrices, en évoquant directement le bouquin. Hardcore, c'est le deuxième film en tant que metteur en scène de Paul Schrader, qu'il a réalisé juste après Blue Collar, qu'il avait réalisé en 78, si je ne m'abuse. C'est quand même quelqu'un, quand il réalise Hardcore, qui est auréolé un statut de scénariste très solide, puisqu'il avait signé Yakuza de Sidney Pollack en 72, Taxi Driver de Martin Scorsese en 76. Et juste avant, j'ai oublié Obsession de Brian De Palma. Donc c'est quand même quelqu'un qui est effectivement assez
tenir la plume.
Assez expérimenté. Et Hardcore, c'est un petit peu le film qui fait la jointure entre des débuts remarqués avec Blue Collar et le succès public et critique en fait d'American Gigolo. Malheureusement, c'est un film qui ne rencontrera pas son public, qui sera plutôt étrillé par la critique, parfois à raison. C'est un film qui est perclus de défauts, mais qui reste encore passionnant parce qu'il porte effectivement la personnalité de son auteur et tous les stigmates aussi de son expérience de vie. Pour essayer de faire un bref résumé du film, on suit un chef d'entreprise du Michigan, calviniste, ça c'est très très important. Calviniste, c'était aussi justement l'obédience de Paul Schrader, et qui malheureusement en fait perd sa fille, enfin sa fille disparaît plutôt, lors d'un voyage organisé, une sorte de voyage scolaire, et il va partir en quête de sa fille et il va se rendre compte qu'elle est malheureusement en fait tombée dans les griffes, appelons-les comme ça, puisque le film est quand même assez manichéen, de la pornographie californienne. Donc nous suivons en fait ce père de famille, veuf, c'est très important, il n'a plus que sa fille, qui va s'enfoncer progressivement dans les ténèbres de Los Angeles et qui va aller aussi un petit peu à droite à gauche en Californie pour essayer de retrouver la trace de sa fille. Il va être accompagné par un détective privé qu'on connaît très bien, qui s'appelle Peter Boyle, qu'on avait vu dans le rôle du sorcier dans Taxi Driver, et qu'on avait vu dans un autre film formidable aussi, qui s'appelait Joe, c'est l'Amérique, de John Avildsen. Par ailleurs, Hardcore, c'est un film aussi qu'on peut mettre, moi je le mets aussi entre deux autres longs-métrages, Joe, c'est l'Amérique, de John Avildsen, et Cruising, de William Friedkin. Par ailleurs, Hardcore partage plusieurs de ses membres de son équipe technique avec ses deux films. Hein. On retrouve notamment Jack Nitzsche à la musique, alors il y a aussi Michael Chapman à la photo dans Hardcore, qui était aussi le chef opérateur de Taxi Driver. Donc on est en territoire un peu connu, hein, si on connaît bien le cinéma du Nouvel Hollywood et ce cinéma des années 70, même si Hardcore est un peu la queue de comète de ce cinéma-là. Tout ça pour dire que ce film, en fait, quand il sort, déjà, il témoigne aussi d'une époque qui est parfaitement évolue, c'est-à-dire que c'est un film de studio, c'est un peu quelque chose dont on a tendance à oublier, et c'est un film de studio qui a été... Donc c'était la Columbia TriStar à l'époque, qui a été très bien distribuée. Je pense que si le film était sorti dans les années 80 ou 90, il aurait eu l'aura et la sortie d'un petit film indépendant. Mais à l'époque, les studios prenaient encore des risques. Et le risque leur a plutôt coûté, puisque le film n'a effectivement pas fonctionné. Pour couvrir en fait le tournage de ce film, il y avait un photographe qui s'appelle Eric Kroll, qui est un photographe très connu, qui en 77 avait documenté en fait le milieu des travailleurs et des travailleuses du sexe aux États-Unis dans un livre qui s'appelle Sex Objects, et qui avait servi justement à Paul Schrader de documentation durant l'écriture de Hardcore. Eric Kroll va donc documenter en fait le tournage de Hardcore. Malheureusement, compte tenu de l'échec du film, les photos ne seront jamais publiées. Ne sortiront jamais. C'est un petit peu le contraire de ce qui s'est produit avec Taxi Driver et le photographe Steve Shapiro, qui avait très largement documenté le tournage du film de Martin Scorsese et qui, lui, a eu droit à une diffusion de ses photos. On a eu un très beau livre qui est sorti aux éditions Tachède, notamment.
Absolument, ouais, très récemment.
Donc, ce qui est très intéressant avec ce livre, qui s'appelle tout simplement Hardcore, hein, Photo by Eric Kroll, Words by Paul Schrader, donc c'est un livre qui est uniquement en anglais, pour information, c'est que c'est autant un film sur le tournage du long métrage Hardcore qu'un livre qui documente toute cette faune interlope qui peuplait les peep shows, les sex shops, les cinémas pornographiques de l'époque dans les années 70 en Californie. On a quelques mots de Paul Schrader et d'Eric Kroll aussi. Paul Schrader revient sur son rapport au film, un rapport très contrarié. Pendant très longtemps, en fait, il était incapable de le revoir, c'est ce qu'il disait. Et aujourd'hui, en fait, il y est progressivement revenu, tout en critiquant toujours la fin, qui était un petit peu le point de cristallisation de toutes les mauvaises critiques de l'époque et même encore aujourd'hui. Et il parle aussi effectivement du travail d'Eric Kroll et de sa déception de ne pas avoir pu voir ses photos publiées suite à l'échec du film. Eric Kroll donne une anecdote quand même que je vais vous rapporter parce qu'elle est très drôle. Il avait une consigne quand il est venu sur le plateau, c'était de ne jamais regarder dans les yeux George C. Scott, qui interprète donc le rôle principal
Francis
du film.
Scott, c'est Patton.
Voilà, c'est le général Patton. Donc, effectivement, c'est un mec...
Patton dans Docteur Folamour.
Voilà. C'est un type auquel il vaut mieux pas trop se frotter. Et donc, c'était vraiment la consigne. Il ne faut surtout pas que tu regardes. Eric ne regarde pas Francis Scott dans les yeux. Et un jour, il arrive un peu en retard sur le plateau. Et puis, il y a quelqu'un du je ne sais plus quel syndicat, en fait, qui lui dit, écoute, va te mettre là, en fait, pour prendre tes photos. Il avait un boîtier spécifique qui lui permettait de prendre des photos pendant que le tournage se déroulait sans faire de bruit. Il s'installe, la scène est terminée, il remballe son matériel et là, en fait, il sent une énorme présence derrière lui et c'est Francis Scott qui le pourrit littéralement en lui disant, oui, tu m'as regardé dans les yeux, je t'avais dit de jamais me regarder dans les yeux, etc. Ouais. Le lendemain, il va voir au cinéma, c'est ce que dit Eric Roll, le canardeur de Michael Cimino, et puis le surlendemain, en fait, Francis Scott, qui cherchait désespérément quelqu'un qui savait jouer aux échecs parmi l'équipe, en fait, lui tombe dessus en disant, tu sais jouer aux échecs? Oui. Et en fait, ils ont fait une partie d'échecs et ils se sont rabibochés comme ça.
Sans voilà. Se regarder dans les yeux. Merci, Fausto. Deuxième...
Et deuxième livre,
Signal.
Livre, c'est plutôt un sulfureux opuscule qui s'appelle 191 Thaïlande criminelle, 911 Thaïlande criminelle, ou Criminal Thaïlande plutôt. C'est, comme je disais en tout début d'émission, c'est vraiment un livre à mettre sous le sapin. c'est une sorte de petit fanzine de luxe, en fait, qui compile plusieurs images d'un tabloïd qui était très connu en Thaïlande et qui s'appelle donc 191. Et c'est un tabloïd extrêmement sulfureux parce qu'on peut y voir effectivement des photos de cadavres, les équipes d'intervention sur place, les coroners, enfin voilà, c'est un bouquin très mondo, on va dire, et mention spéciale aux couvertures de ce magazine qui aujourd'hui n'est plus publié, qui sont quelque part entre le roman photo trash et les affiches de slasher américain des années 80.
Tout ce qu'on aime. Et le hardcore, c'est aux éditions...
Et c'est aux éditions Timeless, absolument, Timeless. Les deux ouvrages Timeless.
Une recommandation rapide, hélas, Chronos de Guillermo del Toro. Voilà, c'est l'ami Dionnet qui devait nous en parler là, s'il ne peut être là ce soir, Philippe.
Ben oui, parce qu'il faut quand même, oui, au dévoté, il faut quand même saluer la sortie de ce film dans une très belle édition.
Saluer Jean-Pierre.
Au film du Camélia, et saluer Jean-Pierre en lui souhaitant prompt rétablissement. Voilà. Donc c'est une édition à la fois Blu-ray et 4K dans un coffret qui est en fait une sorte de livre dans lequel on a glissé les disques. Alors c'est pas comme les cuques, les coffrets ultra collecteurs de Carlotta, mais c'est un peu le même principe. Le livre est très très beau. Et c'est Rafik Djoumi qui a écrit un vrai livre pour cette occasion. Chronos, c'est un film très particulier. C'est le premier long métrage de Guillermo del Toro. Il a été découvert en France à la Semaine de la Critique en 93. Ça a été toute une histoire qui est racontée d'ailleurs par Guillermo del Toro dans un des bonus, parce qu'en fait, il a été produit en partie avec des subventions du gouvernement mexicain, mais qui a été terrifié parce que c'est une sorte d'histoire de vampire. Et au départ, ils voulaient pas. Et puis ils ont dit, mais ce film est nul, si bien que quand le représentant du Festival de Cannes, a voulu trouver des films mexicains, le représentant sur place a dit non, on n'a rien. Et en fait, Jean Roy, qui à l'époque était la tête de la Semaine de la Critique, l'a découvert au Festival de Guadalajara et a dit, moi je le prends pour la semaine. Et le film a été découvert comme ça en France et ça a été un succès. Pas suffisant néanmoins pour le sortir au cinéma. Si bien que l'an dernier, il est ressorti dans une version restaurée en salle, mais c'était sa première sortie en France. On avait avant un très beau double DVD métropolitain. Mais là, on a une nouvelle version et on profite de l'image de Guillermo Navarro, qui a été c'est le premier film qu'ils font ensemble avec Guillermo del Toro, et ça va devenir son chef-op. Je crois qu'ils ont fait 90% de leur film ensemble. Et ce qui est passionnant quand on revoit Chronos aujourd'hui, c'est qu'il y a tout le cinéma de Del Toro qui est là-dedans. Il avait écrit au départ L'Échine du Diable, et puis finalement, on lui a dit que L'Échine du Diable, ça allait pas être possible, c'était trop cher et tout ça, et vite, il a écrit Chronos, qui raconte un antiquaire qui trouve un objet qui lui donne l'immortalité, mais l'immortalité, vous le savez François, à un prix.
C'est long, surtout vers la fin.
Et voilà, c'est long vers la fin, disait Gadebois, mais surtout, c'est ça a un prix, c'est celui de devenir vampire. Et donc, c'est très compliqué quand vous voulez pas tuer des gens, que vous avez besoin de vous nourrir de sang frais. Chronos raconte tout ça, et en même temps, c'est un film de famille, c'est l'histoire d'un grand-père et de sa petite-fille, et cette idée de la famille, et comment on fait avec la famille, les grands mythes du fantastique et la famille, c'est tout le cinéma de Del Toro qui est déjà dans cette boîte.
Merci
dans
Philippe. Un mot, Fausto.
Oui, bah c'est sûr. C'est vrai que c'est ça le cinéma de Del Toro. C'est le fantastique intime. Moi, ce que je remarquerais pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, c'est que c'est littéralement un cinéaste qui est né en France, et je crois que la France est probablement le pays qui défend le plus ses films en fait aujourd'hui.
Merci messieurs du fantastique intime. Le Père Noël est également à la console ce soir. Donc Laurent Polleret, premier cadeau.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Dit Jérôme Meruem, le premier cadeau de Laurent Polleret pour cette Noël 2025 aux auditeurs de Mauvais Genre. Avec vous, Stéphane Duménildo, le théâtre de la vie.
Théâtre de la vie, donc il n'est pas un film sur le théâtre, quoique, hein, puisque on peut considérer que les Yakuza sont tellement ritualisés qu'il y a une dimension théâtrale qui est forte en fait chez les Yakuza, avec tous leurs rituels de présentation et puis leur sacrifice, évidemment le petit doigt coupé, et puis la façon qu'ils ont à la fin de partir vers la mort en découvrant leur magnifique tatouage. Évidemment, il y a quelque chose de théâtral et de ritualisé, puisque ce sont des gens qui dont toute la vie est basée sur le code également. Et le théâtre de la vie, donc de Tadashi Sawashima, qui est un film de 63, est un film qui a une importance historique très forte, puisque c'est le premier Ninkyo-eiga, produit par la Toei, c'est-à-dire le premier film de code chevaleresque. Puisque, bon, les Yakuza ne se considèrent pas comme des criminels, mais se considèrent comme des gens qui portent des valeurs très fortes liées à une chevalerie héritée des samouraïs. Donc ça, c'est leur publicité, en réalité. Hein. Évidemment, puisque dans la réalité, les Yakuza sont des bandes de gangsters, évidemment violentes. Mais évidemment, ils se prévalent évidemment d'avoir une fonction historique de transmission des valeurs. Et leur outil, je veux dire, de propagande privilégiée va être le cinéma dans les années 60, et en particulier dans cette société de production qui s'appelle la Toei, qui était littéralement parasité par des vrais Yakuza, en particulier le plus grand gang de Tokyo, dont le nom m'échappe, mais qui étaient des gens qui, enfin les Yakuza, adoraient le cinéma, évidemment, et puis au moment où où les gangs commençaient à vraiment s'intéresser à la politique, avoir des liens avec les politiciens et puis avec les industriels, et où leurs réunions se mettaient à ressembler à des comités d'entreprise, le cinéma leur permettait quand même de se distraire, hein, et puis de côtoyer des acteurs et des actrices, etc. Et donc, le théâtre de la vie, qu'est-ce que ça raconte? C'est adapté d'une très très grande saga fleuve dont le cinéaste retient qu'un seul chapitre. Ça va être l'histoire d'un yakuza qui part en prison. Pour 7 ans, c'est à peu près le tarif, hein, pour Yakuza, 7-8 ans. Et quand il ressort, eh ben, sa femme n'est plus là. Et il va passer tout le film, et puis le film suivant, à la rechercher, et jusqu'à la retrouver en Mandchourie. Donc c'est à la fois un film gangster, mais c'est surtout un mélodrame, hein, en fait. Hein. Parce que Sawashima, le cinéaste, en fait, n'était pas un cinéaste d'action, c'est quelqu'un qui avait fait des films avec Ibari Misora, qui était la plus grande star de la chanson japonaise. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est la dimension mélodramatique. Et c'est vrai que les Yakuza, justement à cause de leur valeur, à cause de leur opposition entre l'honneur et le sentiment, sont des créatures mélodramatiques. On ne verra jamais autant d'hommes pleurer, hein, que dans les films Yakuza, et dans ce film en particulier. Chérie, n'arrête pas. Et surtout, donc, cet acteur qui s'appelle Koji Tsuruta, qui, pour les amateurs, est... Koji Tsuruta, c'est lui qui incarne l'éthique Yakuza. Vraiment, dans le théâtre de la vie, et puis dans les centaines de films qui vont en suivre. Et c'est quelqu'un, il est toujours larmoyant. Enfin, quand il regarde son frère de sang qui va mourir, il pleure à chaudes larmes, etc. Donc, les Yakuza sont des grands sentimentaux. Et donc, on a Koji Tsuruta, et puis on a l'autre acteur, qui est Ken Takakura. Alors, Ken Takakura, on le connaît assez bien en Occident, puisque c'est lui qui joue dans Yakuza de Sidney Pollack avec Robert Mitchum.
Et par Paul Schrader.
Et son frère Leonard Schrader.
Et voilà,
deux grands fans de Ninkyo Iga. Ouais.
Tout à fait, ils allaient les voir, je crois, à Los Angeles, dans une petite salle dont le nom m'échappe, mais enfin bon, qui était une salle, justement, qui était une salle de la Toei à Los Angeles. Et oui, c'est là où ils ont donc, où sûrement il a découvert Ken Takakura. Et Ken Takakura, lui, c'est un des plus beaux acteurs du cinéma japonais, absolument magnifique, assez ombrageux, extrêmement musclé, enfin pas extrêmement musclé, mais disons que c'est le premier acteur, à mon sens, asiatique, même avant les films chinois, avant Bruce Lee, à s'être mis torse nu et avoir rompu vraiment aussi avec l'image forcément de l'image occidentale d'un asiatique faible, en tout cas. Évidemment, il déchaîne quelque chose absolument apocalyptique lorsqu'il se met torse nu, qu'il dévoile ses tatouages et qu'il part vers son destin, toujours accompagné évidemment d'une musique, d'une chanson déchirante.
Fans.
Oui, alors on pourrait avoir un peu peur de plonger dans ces films en disant oui, Ninkyo Ega, Yakuza, Code d'honneur, etc. On va tomber sur quelque chose un peu ésotérique, sur des codes qu'on ne connaît pas. Mais en fin de compte, lorsqu'on est dedans, lorsqu'on voit par exemple les décors qui sont extrêmement extrêmement soignés, les décors nocturnes, lorsqu'on voit ces histoires de gangsters avec leur code d'honneur, Kojetsu retard en prison, qui ne retrouve plus la femme qu'il aime, on se dit, en fait, on est dans les années 30. Hein, on est dans le réalisme poétique aussi, hein, de Marcel Carné. Kojetsu Ruta, c'est pour être Jean Gabin. La fille, c'est pour être Mireille Balin, par exemple. On a cette dimension des héros qui sont poursuivis par la guigne, qui n'accèdent...
Roman noir, quoi, quand même.
Oui, roman noir, mais plus encore vraiment le réalisme poétique, en fait, des années 30, qui a énormément inspiré les séries japonais, qui ont fait des remakes de Pépé le Moko à Kobe, par exemple. Voilà.
Merci Stéphane, donc chez Roboto. Donc,
Roboto Film.
Roboto Film, donc, qui est un label que l'on suit avec beaucoup d'intérêt. Fausto, un mot de conclusion sur...
Bah non, moi j'ai très hâte de voir les prochaines sorties de Roboto parce qu'ils ne s'arrêtent pas en fait. Ils ont commencé avec des petites salves et puis là ils étayent leur catalogue et puis surtout ils commencent à s'attaquer à des classiques énormes du cinéma japonais qui restent un petit peu pour certains l'angle mort d'ailleurs en fait de la cinéphilie asiatique en Occident.
Je recommande par exemple leur coffret Zatoichi là qui vient de sortir. Oui. Les 5 premiers de la saga, ils sont décidés à les sortir dans l'ordre et on va vraiment retrouver toute la genèse du masseur aveugle et voir les différentes mises en scène de ce personnage. C'est vraiment un très beau travail que fait Roboto.
Absolument, donc Roboto à suivre et à commenter, nous nous y employons. Alors, le prochain film dont nous parlons ce soir est un film bien connu des amateurs de genre, c'est Le Locataire de Roman Polanski.
La locataire d'avant s'est jetée par la fenêtre. Tenez, on peut voir l'endroit où elle est tombée. Regardez. Là. Ils doivent refaire la verrière. Elle n'est pas encore morte. Mais c'est du pareil au même. Elle est à l'hôpital Bretonneau.
S'il s'est rétabli.
Il y en a à craindre, elle est mal partie. Vous savez, c'est gentil ici.
Pauvre femme. Et les conditions, vous les connaissez?
Ben, il y aura un supplément pour l'eau. La plomberie est toute neuve. Avant, il fallait aller sur le palier pour l'eau courante.
Et les toilettes?
Oh, c'est là, juste en face. Vous tournez dans le couloir et vous y êtes. Vous êtes bien placé pour le coup d'œil.
Voilà, très bonne VF du locataire de Roman Polanski, la voix de Shelley Winters. On n'a pas vraiment l'impression d'un décalage entre l'actrice américaine et le personnage de la concierge. Alors, Le Locataire de Tenant de Polanski, très beau coffret par Carlotta Paramount. C'est un film de 1976 qui est tiré du deuxième roman, du premier roman et deuxième livre de Roland Topor, qui est Le Locataire chimérique, qui était publié en 1964 chez Buchet-Chastel, 12 ans d'écart entre les deux. La Paramount avait acheté les droits, mais n'en faisait rien. Et Roman Polanski lui a dit, mais par ici les droits du film, les droits du roman, je vais vous montrer quelque chose. Et effectivement, le résultat est là, puisque c'est un des chefs-d'œuvre de Polanski. C'est son 10e film, qui est entre Chinatown en 1974 et ce qui sera en 1979, Tess, donc produit par la Paramount, et tourné entre 75-76, donc juste après l'époque chabrolienne. Le film sort en mai 76 en France et il a été tourné à la fois dans les studios d'Épinay et en lieu réel à Paris, donc dans un loft prêté par un artiste qui joue dans le film d'ailleurs, et puis également rue Fontaine, la rue où habitait André Breton. Donc un casting franco-anglais, on a entendu la version française avec Shelley Winters, Melvin Douglas, qui sont des acteurs qui se coulent parfaitement dans l'histoire de ce film, qui est une histoire totalement parisienne. Il s'agit véritablement d'incarner ce qu'est le quotidien d'un immeuble parisien, et les acteurs donc choisis par Polanski arrivent totalement. Alors on reconnaît là, bien sûr, pour faire la marque locale, le Splendide avec Junio, Michel Blanc, Josiane Balasco, et puis le Café de la Gare, qui est incarné par Romain Bouteille et Rufus. Et puis alors quelques carrures pour donner une espèce d'assise parigote et quotidienne au film: Bernard Fresson, Claude Pieplu bien sûr en locataire récalcitrant, et Jacques Monod. Alors quelle est l'histoire? l'histoire. Eh bien, l'histoire, elle est pour le coup, cet adjectif tellement comment dirais-je dévalué et surutilisé qui est kafkaïen. Pour le coup, là, on a vraiment un film kafkaïen. C'est l'histoire de Trelkovski, qui est un petit fonctionnaire qui semble visiblement être heureux d'avoir récupéré un poste dans une administration. Il semble soucieux de ne pas poser de problème à personne, ni à ses collègues, ni bien sûr aux propriétaires et aux gérants de cet immeuble, puisqu'il vient donc dans cet immeuble parisien pour louer un appartement. Il est reçu par Monsieur Z, qui est joué par Melvin Douglas, qui est un personnage totalement redoutable, assez sinistre, une espèce de personnage autoritaire et assez effrayant. Et donc, ils font affaire, ils louent l'appartement, et peu à peu, les choses commencent à entrer dans une sorte de folie et de dégradation, puisqu'il apprend, on l'entend, que la précédente locataire, Simone Schull, s'est suicidée, mais ne s'est pas, enfin, a fait deux tentatives de suicide. Elle est à l'heure actuelle à l'hôpital. Il va lui rendre visite. Il la voit totalement couverte de bandages comme une momie, avec simplement, c'est une scène effrayante, la bouche qui apparaît, et la bouche se met à hurler, un œil et la bouche. Et donc voilà, c'est une sorte de figure comme ça qui ouvre le film dans un climat de terreur. Il rencontre d'ailleurs une amie de Simone Schull qui est jouée par Isabelle Adjani, qui sera un peu sa guide à un certain moment. Et il s'installe dans cet appartement, un appartement dont il découvre très rapidement que c'est un peu un lieu hanté. Effectivement, il a vu sur les toilettes de l'immeuble, mais il se rend compte rapidement que ces toilettes servent plutôt d'oratoire et de lieu de méditation pour les locataires et les propriétaires. On se demande quelle est cette méditation. Il se rend un moment dans les toilettes, et alors les murs sont couverts d'inscriptions égyptiennes. Est-ce que cet immeuble ne serait pas, comment dirais-je, un lieu de culte secret? Il y a un côté un peu pas comme tellement dans l'affaire. On a l'impression qu'il y a le culte d'Isis ou qu'il y a un culte égyptien qui se pratiquerait dans le secret. Et puis peu à peu, il se rend compte qu'on essaie vraiment de le configurer à Simone Schull. On ne veut absolument pas le prendre en compte, vraiment le considérer. Il devient véritablement le nouveau Simone Schull. C'est-à-dire que quand il va au café qui est devant l'immeuble, eh bien, on lui sert la même chose qu'à Simone Schull. On insiste bien sur, justement, eh bien, le destin de la précédente locataire. L'atmosphère devient extrêmement envoûtante et extrêmement angoissante, avec notamment l'apparition de Lila Kedrova et de Eva Ionesco dans le rôle d'une mère et de sa fille. Tout ça suinte une espèce d'angoisse totalement, qui n'est pas une angoisse fantastique au sens classique, mais qui est une angoisse paranoïaque et hallucinatoire, d'autant plus que Trelkovski est véritablement dans son métier au sein d'une administration avec des beaufs extraordinaires qui viennent le visiter chez lui. Donc d'une certaine manière, le personnage n'arrive pas à s'intégrer ni dans l'immeuble, ni dans son univers professionnel, et est hanté, véritablement hanté, parasité, habité par le fantôme de Simone Schull, au point même qu'il finit par faire une première tentative de suicide, en s'habillant comme elle, de rejouer son suicide par deux fois. Et c'est la scène finale du film qui est absolument effrayante. Alors, c'est un film qui est vraiment une très grande réussite. À la fois, je disais, c'est un film kafkaïen au sens où la reconstitution, donc avec un décor de Pierre Guffroy, de l'immeuble parisien est absolument parfaite. Tout y est sordide, confiné. C'est un film qui sent véritablement la poubelle. Et l'appartement, vraiment, sent cette espèce de médiocrité bourgeoise et de cupidité. Ça, c'est un truc extrêmement important. La photo de Sven Nykvist, donc le photographe de Bergman, est tout à fait étonnante, puisqu'elle en rajoute encore sur la dimension, je dirais, sordide du décor. Et puis, c'était à l'époque l'invention de la Luma, et donc la caméra, comme ça, se promène dans le décor comme une espèce de grand serpent, et lèche les façades, circule à l'intérieur des corridors, à l'intérieur de l'appartement. Donc, on a vraiment ce que l'on a appelé le troisième volet de la fameuse trilogie des appartements de Polanski. La première, c'est Répulsion, avec Catherine Deneuve qui est dans un appartement londonien et qui sombre dans la folie avec les bras qui sortent des murs. Le deuxième, c'est Rosemary's Baby avec ce culte satanique dans l'hôtel Dakota de New York. Et le troisième, c'est ce locataire qui est véritablement happé, non pas tellement par l'appartement que par la mémoire et les souvenirs sinistres qui sont enclos. Voilà, donc c'est un coffret chez Carlotta, avec évidemment la collaboration de Paramount.
Oui, alors,
complément, Philippe.
Très bon bonus où on autopsie un peu le décor de Gufroy, on voit comment il fonctionne, et la mise en scène de Polanski qui est porteuse dans tout ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vraiment un film sur le regard. Mais qui regarde, comment on regarde, et finalement... Celui qui regarde n'est pas celui qui est regardé. Et en fait, le film va raconter ça. Comment on va passer de celui qui est à regarder à la fenêtre, il va devenir en quelque sorte son contre-champ. Et c'est ça, ce voyage-là que raconte le film dans ce qui est un film totalement paranoïaque, kafkaïen, terrifiant, il faut le dire. Et la restauration du film fait qu'on en profite pleinement. C'est-à-dire que on voit, c'est un film très sombre hein, dans les tons, mais avec une photo de Nick Vist, donc le chef-op de Bergman, génial. Mais pour ça, il faut avoir une belle copie pour pouvoir voir, parce que sinon c'est trop sombre. Tout est, moi, on avait un DVD où on était un peu avec des taches de noir. Là, on voit la finesse du travail de Polanski, qui est absolument prodigieuse.
Stéphane ?
Oui, en plus, la force du film, c'est que n'importe quel locataire, à Paris ou ailleurs, y repense.
Hein, exactement.
On a tous eu des voisins, genre, qui venaient tambouriner à la porte pour des bruits qu'on n'avait absolument pas faits, qui venaient d'autre part.
Alors, le film a vraiment créé une sorte de trauma un peu originel, j'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui, un jour, sont montées sur la capitale et ont habité dans ce type d'immeuble, en fait.
Oui, d'autant plus que l'intelligence du scénario de Michel Drache et de la mise en scène de Polanski, c'est de ne pas en rajouter sur véritablement des éléments objectivement paranormaux ou surnaturels. Tout semble, c'est évidemment le fantastique traditionnel de l'hésitation, est-ce qu'il est fou, paranoïaque, est-ce qu'il voit vraiment ce qu'il voit, je veux dire,
oui.
Est-ce que
le film procède d'une sorte de dérèglement, en fait. C'est effectivement, il n'y a pas d'éléments fantastiques qui vont sauter à la tête du spectateur comme ça. En fait, c'est un long glissement, et je pense que la grande force du film, c'est son espèce de, ce qui fait qu'on y croit, c'est son ancrage quotidien cafardeux, en fait, et on y croit du coup très fermement.
Donc, un coffret pas raté, donc par Carlotta et Paramount, le locataire de Roman Polanski. Deuxième cadeau de Laurent Polleret. Voilà donc deuxième cadeau sonore de Laurent Polleret pour ce Noël 2025 de Cosmic Tones Research Trio. Alors maintenant, toujours Paris, tiens, mais un autre Paris, le Paris de la Belle Époque, le Paris des Amazones, le Paris Esther Taillard de Nathalie Clifford Barnett.
Scandaleux auditeurs, toutes les occasions sont bonnes pour parler de Nathalie Clifford Barnett, baronne lesbienne du mauvais genre. Ce soir, une nouvelle édition de sa correspondance avec les Albatros de la Belle Époque, Aventure de l'Esprit, aux éditions Bartilla, préfacée par Francesco Rapazzini. Mauvais genre, certains êtres sont d'exception et semblent faits d'une terre plus noble que la nôtre. Nathalie était belle, spirituelle et espiègle. On l'appelait l'Amazone, la fantaisiste, l'abeille. Elle a dédié sa vie à la littérature, l'amour, le sexe et l'amitié. Le vin de la rue Jacob était l'épicentre du monde littéraire et artistique début de siècle. Elle y recevait ses amantes, ses amis, ses intrigues. On y lisait, on y baisait. Les femmes étaient fardées et libres. Elles se pelotaient sous les tables en déclamant des vers parfaits. C'était la vie selon Barnet, intense et saturée. À demi, pas du tout. Elle portait des cols hauts, des dentelles, des bijoux. Elle écrivait 20 lettres par jour, assise sur ses froufrous. À qui ? À son armée. Pierre-Louis, Oscar Wilde, Marcel Proust, Anatole France, Gabriel D'Annunzio, Paul Valéry, Colette, René Vivien, Gertrude Stein, Rachild et autres gros oiseaux. Soyons reconnaissants aux éditions Bartia de mettre en lumière cette vie de femme furieuse, et celle-là a une sacrée gueule. Les vies se trouvent dans les journaux, les lettres que nous ne prenons plus le temps d'écrire à nos amours, à nos ennemis. Ces lettres-là sont à pleurer. Je pense à la lettre 5, invitation au Ritz par Proust et critique des cochons mondains. Mademoiselle, comme je ne pense jamais à moi, je ne me soucie pas d'être vue mais de voir. J'ai donc le grand désir de vous rencontrer, même si vous devez me trouver déplaisant. Certains mois que je vous trouverai délicieuse. J'appelle Antimondaigne une réunion où nous serions seuls, tous les deux, et en tout cas pas de personne tenant au monde. Chez moi, c'est impossible. Le Ritz est bouillant, ce que j'adore. C'est la maison la plus laide qui existe. Mais cela m'est tout à fait égal. À 20 ans, j'ai senti que les demeures, laides ou belles, me paraissent pareilles. De même qu'entre les gens du monde spirituel et les gens du monde bête, il n'y a guère de différence. Peut-être une légère supériorité devant être accordée à la deuxième catégorie, plus reposante que celle qui se croit intellectuelle. Votre respectueux Marcel Proust. Voilà une des nombreuses richesses que l'on trouve dans ce petit livre, Aventure de l'esprit aux éditions Bartia. Livre chaud, livre bouillant, car comme disait notre Amazone, rien ne distingue plus un être d'un autre que son érotisme, sa décence à le manier, sa mesure. Tout le reste n'est que pornographie.
Merci Esther, c'est donc un livre publié par Bartia. On peut saluer d'ailleurs le travail éditorial de Bartia qui nous rend vraiment présent tout cet univers parmi les plus formidables. Yann de Pougy, dont ils ont réédité les mémoires érotiques. Rachild, récemment en poche dans leur collection Omnia, ils ont publié L'Animal. Là, je crois que c'est le deuxième volume de Nathalie Clifford Barnet. Donc c'est véritablement un très beau livre et un très beau travail. Éditorial. Est-ce qu'il y a un grand livre sur la figure de la lesbienne au cinéma, monsieur Rouillet ?
Un grand film, vous voulez dire ?
Ou un grand livre, une étude ?
Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas ce... Il est à faire, ami auditeur.
C'est un livre à faire, parce que c'est vrai, ne serait-ce qu'avec des... Effectivement, il y a cet aspect fastueux, impérial, comme ça, qu'avait Nathalie Clifford Barnet.
Ah bah oui, là c'est le grand chic. Hein.
Là on est dans la somptuosité, c'est le côté Sargent. Ceux qui sont à Paris peuvent aller voir l'exposition Sargent au musée d'Orsay. On est dans cet univers de Nathalie Clifford Barnet. Et puis alors il y a l'autre aspect, c'est Les Biches par exemple, de Chabrol.
Voilà, de Chabrol, le premier qui est du coffret. Voilà,
tout à fait autre chose.
Et à manier avec le concept du vampire. Voilà, c'est la séduction, Stéphane Audran, mais c'est Guégoff, hein, c'est Guégoff Les Biches, hein, mais qui est joué en quelque sorte dans le film par Jean-Louis Trintignant.
C'est vrai que Stéphane Audran est une femme dandy dans Les Biches, ce qui la rapproche peut-être.
Ben voilà ce qui la rapproche de Nathalie Clifford Barnet. Merci donc pour cette évocation de Nathalie Clifford Barnet. Je voulais signaler également un très très beau travail éditorial, mais on reviendra dessus parce qu'il y faut du temps, d'un mauvais genre. C'est la réédition de l'œuvre du collectif Bazooka, qui est un objet de subversion graphique, ce groupe donc à la fois de terrorisme graphique qui avait été mis en place avec Olivia Clavel, avec Picasso, avec Romain Slocombe dans les années 70-80, et les éditions du Cendre ont édité dans une sorte d'énorme coffret jaune la totalité de l'œuvre de Bazooka, mais on en reparlera parce que c'est vraiment un travail très très important et qui concerne tout à fait notre inspiration. Toute l'équipe Peu de mauvais gens vous souhaite de nouveau évidemment un excellent Noël. Laurent Polleret, Olivier Arnay, Claire Poissignon, Esther Teilhard, Claire Martin-Dugard, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Stéphane Duménildo et François Angeli. Montpellier. La semaine prochaine, bouquet final de l'année avec une soirée cabaret autour de Céline Duchesnay avec Monsieur K et Martin Dost à l'occasion de la sortie du livre Cabaret aux éditions Michel Lafon. Joyeux Noël!